Bonjour à tous et bienvenue aux lecteurs sous les toits. Aujourd'hui, nous vous offrons une émission spéciale littérature italienne parce que mardi soir, au comité de lecture, nous avons invité le comité de jumelage Manosque-Voghera qui nous avait offert un lot de livres comme il le fait chaque année. Et donc, mardi soir, nous avons parlé des livres qui nous avaient été offerts. Donc, j'ai le plaisir d'avoir autour de moi, autour de cette table, Nelly, qui vous parlera d'un livre de Simonetta Greggio, Femme de rêve, banane et framboise, paru chez Flammarion. Puis David nous parlera de deux livres d'Antonio Tabucchi, Requiem et Pour Isabelle, tous les deux parus chez Gallimard. Alphonsine poursuivra avec Malefico de Donato Carisi, paru chez Kalman Levy. Puis nous écouterons Nathanaël pour Trop de plomb, d'Enrico Pandiani, paru chez Télémaque. Avec Robert, on inventera bien quelque chose, de Giorgio Chiana, paru chez Liana Levi. Puis je vous lirai avec Nathanaël des extraits de Trois fois dès l'aube, d'Alessandro Baricco. Nathanaël poursuivra avec Les doutes de Salaï, de Monaldi et Sorti. Et Blanca terminera avec Giboulée de soleil, le seul livre de la liste aujourd'hui qui n'est pas de littérature italienne, c'est un livre tchèque, de Lenka Hornáková Sivad, paru chez Alma Éditeur en 2016.
Donc, je commence par « Femme de rêve, banane et framboise » de Simonetta Greggio aux éditions Flammarion 2015. L'auteur est italienne, vit en Provence, dans le Vaucluse, et écrit en français. Elle a déjà publié une dizaine d'ouvrages dans « Les nouveaux monstres » paru en 2014. Un magnifique roman sur la mafia qui a été présenté aux correspondances de Manosque de la même année, entre autres aux apéros littéraires de la médiathèque. Femme de rêve, banane et framboise est un recueil de 7 nouvelles traitant de la vie, de la mort, de l'amour, de la mafia, bien sûr. Ma préférée est Os de lune. Elle raconte l'internement à Auschwitz de janvier 1944 à janvier 1945 d'un jeune violoniste vénitien de 17 ans qui a été choisi pour faire partie de l'orchestre du camp parce qu'il avait son violon avec lui quand il a été arrêté. Par contre, son meilleur ami, contrebassiste, arrêté en même temps que lui, n'avait que son archer et après de durs travaux forcés, a sans doute disparu dans les chambres à gaz. Les gardiens avaient des chiens dressés pour attaquer, mordre et même tuer les prisonniers. Un jour que notre jeune ami marchait dans une file bien ordonnée, il a sorti plusieurs fois un pied. Et une grosse chienne a grogné et essayé de le mordre. Et finalement, s'est prise au jeu. En janvier 1945, profitant de l'évacuation du camp, le jeune violoniste a réussi à s'évader. En s'arrêtant, après avoir couru longtemps, il s'est aperçu que la chienne qu'il avait apprivoisée l'avait rejoint. Ils ont marché pendant des mois vers le sud-ouest, survivant l'un grâce à l'autre, se tenant chaud et l'un étant prudent et l'autre chassant leur nourriture. C'est une histoire très belle et émouvante. Je vais en lire un petit extrait où il est question de la rencontre de la chienne et du violoniste. Chez les chiens, il y avait les monstres avides de chair humaine, mais aussi des vieux qui en avaient marre et des gros paresseux. Parmi les plus jeunes, j'avais remarqué une femelle un peu différente, une sang mêlée probablement. Comme aux autres chiens, tout lui était permis. Elle avait le droit de mordre et de tuer qui elle voulait, comme elle voulait. Mais souvent, je la voyais rapporter des bouts de bois, des morceaux d'étoffe en boule à son maître, un énorme Ukrainien chauve, pour jouer. Le nom du chien était Mond en allemand, en français Lune. Un jour, quand nous emmenaient à la rampe pour accueillir un nouvel arrivage de Juifs, la chienne se trouvait près de moi. En marchant pour arriver au lieu prévu, j'ai sorti un pied de la file bien ordonnée. La première fois, Mond a grogné. Elle a essayé de me mordre. J'ai retiré ma jambe. Et ensuite, j'ai recommencé. De nouveau, Mond a grogné et avancé sa gueule, toute canine dehors. Et j'ai de nouveau rentré mon pied. Je l'ai fait en allant et en revenant aussi. Quand on a été devant la baraque, la chienne était toujours près de moi. Elle remuait la queue. Elle attendait que je sorte mon pied. Le maître de monde, l'Ukrainien, n'était pas un mauvais bougre, juste un ogre, sans une once de cervelle. Il fumait comme un pompier. Je pouvais me procurer des cigarettes dans le petit marché noir du camp. Je les lui donnais. En échange, il fermait un œil quand je jouais avec Mond. Chaque fois que je pouvais. En revenant de nos petits concerts, l'Ukrainien me laissait traîner derrière l'orchestre qui marchait en file indienne. Je n'avais jamais eu de chien. Je parlais à Mond comme si elle était une enfant passage. Une vilaine petite fille. Elle m'écoutait. Je lui racontais à voix basse ce qu'on ferait si on nous laissait sortir de là. Les courses dans la forêt, les balades dans la toppa jusqu'à la petite île dans la lagune que je connaissais et une petite crique où l'on pourrait nager. Je m'étais attachée à cette chienne plus qu'à tous ces gens, mes semblables, maigres et couverts de poux et de croûte en qui je ne voulais pas me reconnaître, qui mouraient trop vite pour que je m'y attache. Mond était jeune, bien nourri, le poil brillant, la gueule rieuse, rapide et jolie. Mond était du côté de la vie. C'était donc « Femme de rêve, banane et framboise » de Simonetta Greggio aux éditions Flammarion 2015.
Bonjour, je vais vous parler de deux romans écrits par Antonio Tabucchi, Requiem et pour Isabelle. Deux mots d'abord sur l'auteur Antonio Tabucchi, né en 43 en Toscane et mort en 2012 à Lisbonne. C'est un auteur italien qui a été fortement marqué par la culture portugaise. Directeur du Centre culturel italien à Lisbonne, à la fin des années 80. Auteur de nombreux romans et récits dans le genre fantastique, peut-être influencé par Fernando Pessoa, dont il a traduit toute l'œuvre. Certains de ses romans ont été portés à l'écran, notamment Nocturne indien et Pereira prétend. À son retour en Italie et vers la fin prématurée de sa vie, il s'est engagé dans l'opposition politique à Berlusconi. Requiem. C'est un roman qui a été publié en 93 et qui est sorti en France dans la collection chez Gallimard Folio en 2006, enrichi de notes et d'une postface dont je vous parlerai un peu à la fin. Le narrateur entame à midi une longue errance à travers Lisbonne, désert. Ça durera 12 heures, entre midi et minuit. Je, un rendez-vous, alors Tabucchi nomme le narrateur Je. Je, un rendez-vous à 12h ou à 12h de la nuit avec quelqu'un au bord du Tage. On apprendra un peu plus tard qu'il est aussi à la recherche d'une femme. L'homme qu'il doit rencontrer est un grand poète du XXe siècle, mort depuis longtemps. Le doute s'installe dans une ambiance fantastique. Je se déplace en taxi, transpire à grosses gouttes, veut changer de chemise, finit par en trouver deux qu'il achète à une gitane à la porte du cimetière. Nous entrons d'emblée dans un monde irréel dans lequel toutes les barrières, les frontières sont abolies. Antonio Tabucchi avait l'art de mettre en scène ces situations troubles. Il énumère cependant en début de volume tous les personnages qui vont intervenir dans son récit et qui apparaissent dans son rêve. En effet, on sait qu'il faisait la sieste dans la ferme de ses amis à Azeytaun. Son ami Tadeusz Václav Slowacki est enterré dans le carré 46-64 du cimetière. Néanmoins, il le reçoit, bien vivant, dans son appartement. Peut-être son caveau, on ne sait pas. Ils vont déjeuner ensemble chez Casimiro. Et là, on fait la connaissance de la gastronomie portugaise dont il sera question tout au long du roman. Ici, nous avons la première mention d'Isabelle. Alors, Isabelle, c'est le titre du deuxième roman dont je vous parlerai. Et c'est une pierre d'achoppement de son œuvre aussi, qui revient régulièrement dans son œuvre. On ne sait pas, c'est un personnage, on va en parler un petit peu après. Je reproche à Tadeusz d'avoir laissé Isabelle se suicider alors qu'elle était enceinte. Nous sommes dans une suite de rêves qui s'enchaînent les uns aux autres. Certains épisodes, comme l'opération du père, se réfèrent directement à la vie de l'auteur. Les termes comme les descriptions sont précis. Antonio Tabucchi est linguiste et philologue à l'origine. La rencontre a lieu enfin à minuit, encore une fois, entre un vivant, Tabucchi, et un mort, Pessoa, on pense, Pessoa. Alors je vais vous lire juste la dernière partie de ce livre, de ce roman. Nous étions parvenus au bout du quai. Bon, dit-il, c'est sur ce banc que nous nous sommes rencontrés, c'est sur ce banc que nous allons nous quitter. Vous devez être fatigué, vous pouvez dire à cet homme de s'en aller. Il s'assit et j'allais dire au joueur d'accordéon que nous n'avions plus besoin de sa musique. Le petit vieux me dit bonsoir, je me retournai et m'aperçus seulement alors que mon invité avait disparu. La ferme baignait dans le silence, une brise fraîche s'était levée et caressait les feuilles du mûrier. « Bonne nuit, dis-je, ou plutôt adieu. À qui ? Ou bien à quoi disais-je adieu ? Je ne savais trop, mais c'était ce que j'avais envie de dire à haute voix. Adieu et bonne nuit à tous, répétais-je. J'appuyai ma tête en arrière et me mis à regarder la lune. » Voilà, ça c'est tout Tabucchi, c'est-à-dire qu'on n'arrive jamais à être situé dans son récit. Il est tout le temps en train de nous perdre. Alors je vais vous dire quelques mots du deuxième roman qui s'intitule Isabelle. Là, il s'agit plutôt d'une enquête, d'une recherche d'un personnage, cette femme, Isabelle. Et ça se passe aussi au Portugal, au moment de la dictature de Salazar. Apparemment, Isabelle doit militer, c'est une étudiante qui doit militer dans des mouvements d'opposition. L'exergue est en lui-même assez signifiant. Qui sait ? Les morts ont peut-être d'autres cultures. C'est tiré de Antigone de Sophocle. Dans la note en fin de volume, Bernard Coman, qui est le traducteur habituel de Tabucchi, écrit notamment « Pour Isabelle, le livre, donc le titre, est donc la pierre angulaire de l'œuvre d'Antonio Tabucchi. » Un texte où le personnage d'Isabelle se déploie en versions successives. Ce livre fondamental, l'auteur avait décidé de ne pas le publier de son vivant, même s'il n'avait jamais voulu donner trop d'emphase à ce geste. Il ne pouvait exister qu'à titre posthume, comme un message qu'une étoile continue de nous envoyer bien après sa mort, par radiation lumineuse. Le roman est construit comme un mandala, c'est-à-dire une suite de cercles concentriques de l'extérieur vers l'intérieur, et qui est une façon de décrire le monde, une façon indienne, enfin chez les brahmanes et les bouddhistes, de décrire le monde. Nous sommes avec Tabucchi à la poursuite de ce personnage énigmatique dont le visage s'effacera à la fin, dans un nuage de fumée, Voilà. Alors, je voulais vous dire quelques mots à propos de la postface de Requiem, parce que ça me paraît intéressant du point de vue de la création littéraire. Tabouki intitule ça... Tabouki intitule ça une syllabe, le monde autour d'une syllabe, quelque chose comme ça. Enfin, je ne retrouve plus la référence. Alors, je vais vous parler juste du rêve que fait Tabouki et qu'il raconte dans cette postface. Ça me paraît extrêmement intéressant. Le père de Tabouki a été opéré du larynx et de la glotte. Et Tabouki rêve de son père à ce moment-là et de toutes les démarches qu'il a dû faire pour le faire soigner. Et malheureusement, en fin de compte, le père finit par décéder. À propos du silence, il écrit « L'opération, ablation totale du larynx et ses conséquences sur le plan de la communication entre Tabouki et son père. Utilisation des moyens de la sémiologie, puis de l'ardoise magique. » Il ne peut plus parler, le papa, donc il communique par une ardoise magique. Voilà, le souvenir à travers les perceptions sensorielles. La réalité que nous percevons par nos sens, avant qu'elle ne soit déchiffrée et élaborée par nos capacités intellectuelles et psychologiques, cette réalité peut revenir des années après grâce aux sens qui la perçurent. La vue, l'ouïe et le toucher, l'odorat et le goût. Évidemment, elle ne revient pas en tant que principe de réalité, mais à travers la digestion et la transformation de notre moi, que notre moi a faite, autrement dit, à travers notre mémoire individuelle. Voilà, je ne veux pas trop m'étendre, mais simplement, je voulais juste vous donner la tonalité de cette postface qui me paraît dépasser largement le projet de l'écriture d'un roman. Donc, je terminerai simplement en disant que Tabouki était un écrivain extrêmement attachant dans la profondeur qu'il avait d'écrire des situations et en même temps d'y mettre toute sa sensibilité. Il manquait d'ailleurs pas, il manquait pas d'humour. Et je me souviens qu'il était venu une année à Aix au moment des Belles étrangères. Il avait été invité et où il nous avait fait un sketch l'endroit où on le recevait. Il avait simulé l'appel sur son téléphone mobile de quelqu'un, et ça avait étonné tout le monde, donc c'était une conversation extrêmement sérieuse, et à la fin, il a éclaté de rire en disant, ben non, voilà, c'était simplement, je voulais un peu vous distraire. Voilà. Donc je vous conseille fortement la lecture de ces deux livres, Requiem et Pour Isabelle, édités donc chez Gallimard. Il faut les lire ensemble, l'un après l'autre, parce qu'il y a quelque chose de commun dans ces deux livres. Voilà. Merci.
Alors, moi, je vais vous parler de Malefico, écrit par Donato Caresi, aux éditions Calman Levy, paru en 2015. L'auteur est né en 1973 en Italie. Il est journaliste, dramaturge, scénariste, juriste de formation spécialisé en criminologie. C'est l'auteur de polar le plus lu en Italie. Et on retrouve Le Chuchoteur, Le Tribunal des âmes, pour ne citer que ces deux-là. Dans Malefico, l'intrigue policière est très complexe, pleine de rebondissements, haletante. On est propulsé dans des zones sombres où sévit le mal. Une folie meurtrière s'empare de Rome et du Vatican. Des couples d'amoureux sont tués. La brigade criminelle, où travaille Sandra, comme photographe, est sous pression. Alors cette brigade doit progresser rapidement pour éviter que d'autres meurtres soient commis et que la psychose ne gagne la ville. D'autre part, la pénitencerie apostolique, qui existe réellement, charge le pénitencier, Marcus, d'œuvrer à la capture du criminel. Et Marcus, lui, est très doué pour comprendre le mal et le débusquer. Il a un mentor, Clemente, qui lui transmet les consignes venues d'en haut et qui ne rencontre jamais d'autres personnes que lui. On se demande à quel moment Sandra et Marcus vont échanger leurs informations, parce qu'ils travaillent chacun dans une piste. Il y a un troisième élément très important qui agit dans l'ombre, c'est la secte du mal. Ceux-ci travaillaient avec le docteur Kropp à l'Institut Hamelin. Cette clinique recevait des enfants criminels, non pour les soigner, mais uniquement pour suivre leur évolution jusqu'à l'âge adulte. On découvre également des aspects de Rome inédits, du Vatican, au travers de l'enquête. Par exemple, il y a 2 hectares de forêt au cœur de la cité, qui paraît incroyable. J'ai eu du mal à trouver des extraits, parce que pour sortir du contexte, c'était très difficile. Donc je vous en lis 2 petits passages. Durant ses 15 années d'activité, l'Institut Hamelin avait hébergé 30 d'enfants. Le crime était toujours le même, homicide. Pourtant, ils n'avaient pas tous tué. Certains avaient seulement manifesté des tendances homicides marquées. Ou encore, ils avaient échoué dans leur dessein. Le récit de ce qu'ils avaient fait n'était pas accompagné de photos et ils n'avaient aucun nom. L'identité de chacun d'eux provenait d'un conte. Et Marcus comprenait pourquoi les autorités n'ébruitaient pas ses affaires. C'était un tabou. Divulguer ces histoires aurait troublé les consciences. C'était pour cela qu'avaient été instaurés des tribunaux spéciaux, qu'il existait des documents confidentiels et que le tout était maintenu secret. Et donc le tribunal des âmes, il a été institué au XIIe siècle sous le nom de Penitentiaria Apostolica, suite à une affluence extraordinaire de pèlerins dans la ville éternelle. Beaucoup d'entre eux cherchaient l'absolution pour leurs fautes. À l'époque, il existait des censures réservées uniquement aux souverains pontifes, des grâces et dispenses qui ne pouvaient être concédées que pour la plus haute autorité de l'Église. Mais pour le pape, c'était un travail énorme. Alors, il l'avait délégué à certains cardinaux qui avaient par la suite créé le dicastère de la pénitencerie. En principe, une fois que le tribunal s'était prononcé, les textes des confessions étaient brûlés. Mais quelques années plus tard, les pénitenciers décidèrent de créer des archives secrètes. Depuis presque 1000 ans, les pires péchés commis par l'humanité y sont conservés. Il s'agit parfois de crimes dont personne n'a jamais eu connaissance. Il y a un petit passage où on est face au tueur, enfin du moins Sandra. Avec un psychopathe, chaque mot pouvait déclencher une réaction imprévisible. Sandra choisit donc de se taire. « Pourquoi tu ne me parles plus? Tu es vexée ?» demanda l'autre en faisant la moue. Hier soir, à Sabaudia, je ne me suis pas trompée. J'ai juste séparé les termes de l'équation. Que disait-il? À quoi faisait-il référence? Les termes s'annulent. Le résultat est zéro. Sandra se sentit traversée par un terrible frisson. Et continue en disant, les gens se comportent bizarrement avant de mourir. Tu as remarqué? La fille d'Hostie hurlait et criait à son petit ami de ne pas la poignarder. Mais quand je lui ai dit de le faire, il l'a fait. À mon avis, il ne l'aimait pas vraiment. La policière, Pia Drimonti, à la fin, elle, m'a remercié. Oui, elle m'a dit merci. Quand j'en ai eu assez de la torturer et que je lui ai annoncé que j'allais la tuer. Sandra était furieuse parce qu'elle imaginait parfaitement la scène. Donc, ce roman, il se lit vraiment d'un trait. Il ne laisse pas indifférent. Il est même effrayant. Et pourtant, je n'étais pas motivée au départ de lire des policiers. Mais il est à lire. Donc c'était Maléfico de Donato Carisi.
Bonjour, je vais vous présenter d'Enrico Pandiani, Trop de plomb. Alors, l'auteur est né à Turin en 1956, Enrico Pagliani, a commencé sa carrière par la bande dessinée, Fiumetto en italien. Puis, il est attiré par la littérature policière et finalement, il fait ses débuts en 2009 avec son premier roman, Les Italiens, et obtient un grand succès auprès de la critique et du public. Alors, qui sont ces Italiens ? Eh bien, ces Italiens, en fait, c'est une brigade spéciale créée au Quai des Orfèvres qui est composée essentiellement de franco-italiens ou de policiers d'origine italienne pour donner un peu de fantaisie, en fait, aux enquêtes, un petit peu de ce punch typiquement italien et qui espère, voilà, et les Français espèrent que cela va booster un petit peu le Quai des Orfèvres. Donc c'est original parce que finalement je pensais être dépaysée et pas du tout. Je me retrouve au cœur de Paris, au Quai des Orfèvres, et en plus dans un Paris enneigé. Alors, la première enquête, donc, qui a eu du succès, se passait, voilà, notre héros commissaire se trouvait aux prises avec un sniper bien décidé à éliminer justement cette brigade franco-italienne, et le commissaire se trouvait aussi aux prises avec une transsexuelle, alors que c'était un macho, et ben finalement, il se laissait un petit peu séduire, troubler en tout cas. Par contre, la deuxième enquête démarre très violemment. La deuxième enquête, c'est donc ce roman que nous vous présentons avec Sylvie, Trop de plomb. Une journaliste de Paris 24 heures, un journal à grand tirage, se fait assassiner à coups de pied. Nous allons vous lire un extrait, on vient de découvrir son cadavre.
Et ainsi, nous étions à nouveau au travail. Thérèse Garcia était, à ce que l'on disait, un espoir du journalisme au quotidien Paris 24 heures.
Mais elle ne pourrait pas tenir ses promesses. Quelqu'un l'avait assassinée en lui rompant le cou après l'avoir tabassée. Selon Delarche, le boucher de la morgue, elle était morte le soir précédent, vers minuit. Les voisins n'avaient pas entendu de bruit insolite. Coups de pied et coups de poing font plus de mal que de bruit.
Il l'a massacrée, a remarqué Delarche. Avant de lui porter le coup de grâce, il l'a pratiquement tué à coups de pied. Le coup, il le lui a tordu à la fin.
Il a pris ma tête entre ses mains.
Il a fait comme ça.
Je me suis retirée avant qu'il ne me le torde vraiment. Toutes les lumières de l'appartement étaient allumées. Par la porte du salon, on pouvait voir la tête de la victime. Le reste du corps était caché par le divan.
Philippe Guibert et François Saunière, de la scientifique, étaient en train de faire le relevé avec les autres enfants prodiges. Ils utilisaient des instruments fantastiques, comme du papier tournesol, des lunettes à rayons X et le petit couteau suisse de MacGyver.
Le matin, Garcia avait grillé quelques rendez-vous importants, alors un collègue était passé voir chez elle dans la soirée. La porte était entrouverte et Thérèse morte. Il avait appelé les flics.
À part le cadavre, les hématomes et peu d'autres choses. Il ne semblait pas y avoir d'indices vraiment intéressants. Une chemise de nuit en voile couleur prune gisait sur le sol, abandonnée, déchirée. On voyait l'étiquette, elle disait « Christian Dior » en caractère élégant, article de luxe.
Il y avait aussi des éclaboussures de sang sur le parquet et le mur. Sur le chambranle de la porte d'entrée, une main avait laissé des empreintes écarlates. « Elle a été violée ?» ai-je demandé à l'homme de science.
« Je ne crois pas, mais pour en être sûr, je dois vérifier. Son entrejambe être mal en point. » Celui qui a fait cette boucherie ne la trouvait pas très sympathique, je peux te le garantir.
Saunière est venue vers nous, revêtue de son patron en papier blanc et de babouche à jeter après usage. Une gravure de mode, comme toujours.
Dans le portefeuille de la victime, il y a 700 euros en gros billets et dans l'armoire de la chambre, on a trouvé une trousse archipleine de bijoux. J'aurais tendance à exclure le vol comme mobile.
Autre chose ?
Philippe a trouvé des traces de talc sur la victime. Elles pourraient provenir d'une paire de gants en caoutchouc, mais ça vaut la peine de faire un examen approfondi. Nous sommes en train de relever toutes les empreintes, bien que je doute que parmi elles, il y ait celle de l'assassin.
Rien d'étrange ?
Rien. Là-dedans, il n'y a que le cadavre et 11 paires de chaussures alignées.
11 paires de chaussures ? Qu'est-ce que tu devais trouver pour que ça soit étrange ? Un astronef ? Il est retourné au salon en ronchonnant. J'ai enlevé écharpe et manteau, les ai jetés sur la rambarde de l'escalier. Il faisait chaud dans l'appartement. Il y avait une odeur de renfermé, de sang et de début de putréfaction. Les habituels délices que l'on trouve sur la scène d'un crime violent. La porte s'est ouverte, Leïla Santoni est entrée et m'a mis un téléphone entre les mains. Alors, si le ton du récit se veut Léger et drôle, l'intrigue, elle ne l'est pas. Hein. Car dans le milieu du journalisme, le mot vengeance, comme on va le constater, hein, comme on l'a constaté, s'écrit avec un grand V. Et plusieurs journalistes de Paris 24 heures vont être assassinés de la même manière violente, c'est-à-dire à coups de pied et à coups de poing. Le tueur est insaisissable. Toutes les affaires semblent être reliées à la semaine de la Fashion Week et aux émeutes des banlieues qui avaient eu lieu en 2005. Et donc, on va suivre notre commissaire dans ses enquêtes. Alors, évidemment, il y a certains poncifs. Notre beau rital de commissaire Mordanti va bien sûr tomber sur une non moins belle journaliste et vont s'en suivre quelques scènes d'amour torride et un petit peu attendues quand même. Mais c'est quand même une très bonne récréation. Je vous recommande ce livre. Trop de plomb. Donc le titre se rapporte au milieu journalistique. Hein. Trop de plomb, c'est lorsqu'une page est trop chargée de caractères. Donc l'auteur joue sur les mots. Et c'est de Enrico Padiani aux éditions Télémac.
On inventera bien quelque chose, c'est le titre du roman dont je vais vous parler, de Giorgio Fiana, paru aux éditions Liana Levi en 2016. On peut déjà dire que le titre de ce roman est tout un programme. L'histoire se passe dans la région de Pavie. On est en présence de deux garçons, Mirko, 17 ans, et son jeune frère Tommaso, 11 ans, dont les parents ont été tués dans un accident de voiture quelques mois auparavant. C'est leur oncle Eugenio, qui vit à 50 km d'eux, qui est leur tuteur et à qui ils doivent rendre des comptes de tout ce qu'ils font d'une manière stricte. Par exemple, lui fournir un ticket de caisse pour chaque achat effectué. Ils sont secondés dans la vie de tous les jours par une dame qui vient chez eux faire du ménage, du repassage. Tout se passe à peu près bien, jusqu'au jour où un match de foot de l'Inter de Milan à Madrid pour la finale de la Coupe d'Europe va faire tout déraper. Je vous lis maintenant un premier extrait. Il s'agit d'un dialogue entre Mirko et son ami Davide au sujet de ce match de foot. C'est Davide qui parle en premier. Alors, on y va ? Quoi ? À Madrid ? Ne dis pas de conneries. Je ne plaisante pas. J'ai trouvé les billets sur Internet. Mirko comprit que ces mots n'auguraient rien de bon. C'était lui qui avait monté tout ce bordel. Trois semaines auparavant, ils avaient vu le match Inter-FC Barcelone et il avait invité Davide, Antonio et trois autres copains chez lui. Il les avait invités parce que Tommaso, son jeune frère, aussi avait envie de voir ce match et qu'il ne voulait pas le laisser seul à la maison. Quand son petit frère était parti se coucher, il avait descendu une canette d'un seul trait devant ses potes. Une canette de bière, hein. De bonne humeur, tellement de bonne humeur qu'il avait lâché que ce serait chouette d'aller à Madrid pour la finale de la Ligue des Champions. Il avait dit ça en l'air. Ça lui semblait un truc cool à dire, cool à imaginer. Mais Davide s'était accroché à cette idée pire qu'un pitbull. Il avait essayé de changer de sujet ce soir-là et le lendemain au lycée, mais Davide était arrivé avec des pages imprimées d'après Internet, avec les photos d'un stade d'une beauté à faire peur. Mon oncle, l'argent, il ne le donnera jamais. Par ailleurs, Mirko a une copine, Greta, qui serait prête, elle aussi, à aller à Madrid avec lui et ses copains, et ainsi, ils passeraient leur première nuit ensemble. Ce qui, bien sûr, motive doublement Mirko pour aller à Madrid. Mais il faut trouver l'argent pour cela. Et Davide a calculé qu'il fallait prévoir 1200 euros pour l'avion, l'hôtel et la place au stade. Donc Mirko, dans un premier temps, va demander l'argent à son oncle. Donc voici un deuxième extrait entre Mirko et son oncle. Et c'est l'oncle qui parle en premier. D'après toi, je peux aller voir le juge des tutelles et lui annoncer que tu as dépensé 1000 euros pour un match de football ? Oncle Génio tournait autour de Mirko, assis devant le bureau. Les volets étaient mi-clos, il faisait presque sombre. Pourquoi pas ? Parce qu'il n'approuverait pas. Parce que je ne veux pas. On pourrait lui demander au moins. Non, on ne va pas chez le juge pour une chose pareille. Qui a décrété ça ? C'est moi qui te le dis. La voix grave, d'oncle Eugénio, fermait toutes les issues. Une voix basse, rauque, de fumeur, qui sortait drôlement de son corps maigre. « Dis-moi comment je peux faire alors ?»« Tu ne peux pas !»« Mais je renonce au voyage de cet été en Irlande qui coûte beaucoup plus cher. »« Mais ça n'a rien à voir, Mirko. La question n'est pas là. Pourquoi ?»« Parce que ça, c'est un séjour de 2 semaines avec l'école, c'est de l'étude, alors que là, c'est un match de foot. »« Mais je préfère aller à Madrid, tu ne peux pas me forcer. » « Et puis, il n'y a personne pour vous accompagner, » dit-il en s'asseyant face à lui. Mirko le savait, qu'oncle Eugénio en arriverait là. « 2 jours seulement, tu peux m'appeler quand tu veux, à chaque instant. Mirko, tu n'as que 17 ans, tu veux bien te mettre ça dans la tête. » Mirko s'aperçut qu'il serrait les poings comme un étau. « De toute façon, il n'y a pas à discuter. On ne peut pas dépenser tout cet argent pour un match de foot. » « Je ne t'ai jamais rien demandé d'excessif. Non, non, mais ce projet est absurde. » Oncle Eugénio se leva brusquement. Mirko resta devant le bureau comme s'il était en classe, la tête entre les mains, la voix presque inaudible. « C'est mon argent. Bon, on arrête là. » Devant le refus de l'oncle, il va falloir trouver une autre solution pour se faire prêter cet argent. Et c'est là où tout va se compliquer. Mirko, non sans mal, trouve une personne pas très nette, genre dealer, qui lui prête cet argent et lui fixe une date impérative pour qu'il la lui rende, plus 300 euros d'intérêt, soit au total 1500 euros. Comment va-t-il pouvoir lui rembourser à la date fixée ? Je ne vous en dis pas plus, mais ça ne sera pas facile. Dans ce roman, l'auteur, qui a écrit plusieurs romans et une pièce de théâtre qui a eu du succès, porte un regard fin et inattendu sur l'adolescence. Sa lecture est très agréable et je vous la conseille. Je vous en rappelle le titre, « On inventera bien quelque chose », l'auteur Giorgio Siana, et c'est paru aux éditions Liana Lévis en 2016. Merci.
Alors, je vais maintenant vous parler d'un petit roman qui m'a beaucoup plu, qui s'appelle « Trois fois dès l'aube », écrit par Alessandro Barrico en 2015 chez Gallimard dans la collection du Monde entier. C'est un livre composé de 3 nouvelles qui mettent toutes en scène un homme et une femme. On comprendra vite que ce sont les mêmes personnages que l'on retrouve dans chaque histoire, mais à des âges différents, des âges qui ne collent pas avec la logique temporelle. Voilà d'ailleurs le prologue. Ces pages racontent une histoire vraisemblable qui, toutefois, ne pourrait jamais se produire dans la réalité. Elles décrivent en effet 2 personnages qui se rencontrent à 3 reprises, mais chaque rencontre est à la fois l'unique, la première et la dernière. Ils peuvent le faire parce qu'ils vivent dans un temps anormal qu'il serait vain de chercher dans l'expérience quotidienne, un temps qui existe parfois dans les récits, et c'est là un de leurs privilèges. Donc vous avez compris, c'est un petit peu comme dans Tabouki, on est un petit peu dans le fantastique au niveau du temps, mais le lecteur, au fil de la lecture, va se faire sa petite idée et reconstituer le puzzle. C'est un petit peu un jeu. Est-ce qu'on rencontre vraiment la même femme à chaque fois ? Est-ce qu'on rencontre le même homme ? On ne sait pas exactement. Je vais vous, avec Nathanaël, nous allons vous lire le début de la première nouvelle. C'était un hôtel d'un charme un peu suranné qui avait su probablement, par le passé, tenir certaines promesses de luxe et de raffinement. Par exemple, il avait une belle porte à tambour en bois, un détail toujours propice aux fantasmes.
C'est par là qu'une femme entra, à cette heure étrange de la nuit, apparemment perdue dans ses passés, à peine descendue d'un taxi. Elle portait juste une robe du soir, jaune, plutôt décolletée, sans l'ombre d'un châle sur les épaules. Cela lui donnait l'air intrigant de ceux à qui il est arrivé quelque chose.
Comme le concierge dormait dans une petite pièce voisine d'un sommeil très léger dont il avait le secret, sa veste abandonnée sur le dossier d'une modeste chaise, personne n'aurait pu voir la femme entrer dans l'hôtel s'il n'y avait eu un homme qui allait au fond d'un fauteuil, dans un recoin du hall, guère raisonnable à cette heure de la nuit, qui la vit et croisa alors sa jambe gauche sur sa jambe droite, tandis qu'avant la droite était posée sur la gauche, sans raison. Ils se regardèrent.
« Il a fait mine de pleuvoir, mais finalement non, » dit la femme.
« Oui, le ciel est indécis, » dit l'homme.
« Vous attendez quelqu'un ?»«
Moi, non. »«
Quelle fatigue. Cela vous ennuie si je m'assieds un instant ?»«
Je vous en prie. »«
Rien à boire, à ce que je vois. »
Je ne crois pas qu'ils servent le petit déjeuner avant 7 heures.
De l'alcool, je voulais dire.
Ah, d'accord. Je ne sais pas, je ne crois pas à cette heure-ci.
Quelle heure est-il ?
4h12.
Sérieusement ?
Oui.
Cette fichue nuit n'en finit pas. J'ai l'impression qu'elle a commencé il y a 3 ans. Que faites-vous ici, vous ?
J'allais partir, je dois aller travailler.
À cette heure-ci ?
Eh oui.
Comment faites-vous ?
Ça va, ça me plaît.
Ça vous plaît ?
Oui.
Incroyable.
Vous trouvez ?
Vous semblez être la première personne intéressante que je rencontre ce soir, cette nuit. Je ne sais plus ce qu'il faut dire.
Je n'ose imaginer comment étaient les autres.
Terrifiante.
Vous étiez à une fête ?
Je crois que je ne me sens pas très bien.
J'appelle le concierge.
Non, par pitié.
Vous feriez peut-être mieux de vous allonger.
Je retire mes chaussures, ça ne vous ennuie pas ?
Pensez-vous.
Dites-moi quelque chose, n'importe quoi, quand je me distrais, ça passe.
Je ne sais pas trop quoi.
Parlez-moi de votre travail.
Oh, ce n'est pas très captivant comme sujet.
Essayez.
Je vends des balances.
Continuez.
On pèse un tas de choses et il est important de les peser avec exactitude. Ainsi, je possède une petite usine qui produit des balances de toutes sortes. J'ai 11 brevets et je vais chercher le concierge.
Non, je vous en prie, ce type me déteste.
Restez allongée.
Si je reste allongée, je vais vomir.
Alors debout. Enfin, je veux dire...
On gagne bien sa vie en vendant des balances ?
À mon avis, vous devriez...
On gagne bien sa vie en vendant des balances ?
Pas très bien.
Continuez, ne vous occupez pas de moi,
Je vais vraiment devoir vous laisser.
Soyez gentil. Parlez-moi encore un petit peu. Après, je vous laisse partir.
C'était assez rentable il y a encore quelques années. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Si je me suis trompée quelque part, toujours est-il que je ne vends plus rien. J'ai pensé que c'était à cause de mes commerciaux. Alors, je me suis mis à faire des tournées moi-même pour vendre. Mais il est clair que mes produits ne marchent plus. Ils ont peut-être vieilli, je ne sais pas, ou ils coûtent trop cher. En général, ils sont assez coûteux. Parce que tout se fait à la main. Vous n'avez pas idée de ce que ça signifie d'atteindre l'exactitude absolue quand on doit peser quelque chose.
Peser quoi ? Des pommes, des personnes, quoi ?
Tout. Nous faisons tout. Des balances d'orfèvre aux balances pour conteneurs.
Sérieusement ?
C'est pour ça qu'il faut que j'y aille aujourd'hui. Je dois signer un contrat important. Je ne peux vraiment pas arriver en retard. Il en va de mon usine si je n'arrive pas à conclure cette... Nom d'un chien !
Merde !
Je vous accompagne aux toilettes.
Attendez, attendez !
Oh non !
Merde !
Je vais vous chercher un peu d'eau.
Désolée, vraiment désolée.
Je vais vous chercher un petit peu d'eau.
Non, restez là s'il vous plaît.
Tenez, essuyez-vous avec ça.
J'ai honte.
Ne vous en faites pas, j'ai des enfants.
Quel rapport ?
Les enfants vomissent souvent. Les miens en tout cas.
Ah, pardon.
Du coup, ça ne m'impressionne pas. Cependant, il vaudrait mieux que vous montiez dans votre chambre.
Je ne peux pas laisser ça comme ça.
J'irai chercher le concierge après. Montez dans votre chambre. Vous avez une chambre, n'est-ce pas ?
Oui.
Alors allez-y, je m'occupe du reste.
Je ne suis pas sûre de me souvenir du numéro.
Le concierge vous le donnera.
Je ne veux pas voir le concierge. Ce type me déteste, je vous l'ai dit. Vous n'avez pas une chambre, vous ?
Moi ?
Oui. Accordez-moi cette dernière faveur. Accompagnez-moi là-haut. Ensuite, j'arrête de vous ennuyer. C'est à quel étage ?
Au 2e, prenons l'ascenseur.
Cela m'ennuie de laisser ça comme ça.
Ne vous inquiétez pas.
Je me sens un peu mieux maintenant, vous savez ?
Bien, mais vous avez besoin de vous reposer, venez.
Je n'ai rien oublié ?
Venez.
Oh là là, quelle chambre magnifique ! J'ai vraiment besoin de me rafraîchir. Auriez-vous une brosse à dents et du dentifrice ?
Maintenant, je suis vraiment en retard.
Je sais, prêtez-moi juste votre brosse à dents. Qu'est-ce que cela vous coûte ?
Ma brosse à dents ?
Du calme, vous n'avez jamais prêté votre brosse à dents ?
Pas à quelqu'un qui venait de vomir.
Ah, c'est pour ça ?
Oui, c'est pour ça.
Bon, vous me la prêtez ou pas ?
Alors, on ne va pas vous dévoiler toute la suite de la première nouvelle. En fait, il lui prêtera sa brosse à dents, il lui donnera même sa brosse à dents. Et par contre, il ne partira pas de la chambre d'hôtel. Mais peut-être pas pour les raisons que vous croyez. Donc, je vous conseille de lire cette nouvelle, vous aurez la fin. Et donc, dans la deuxième nouvelle, on retrouve une toute jeune fille qui entre dans un hôtel avec un homme plus âgé qu'elle, qui a l'air très dur. Et le concierge va convaincre la jeune fille de fuir. Il va l'accompagner, elle a 16 ans, elle est enceinte. Et cette jeune fille ressemble à la femme de l'hôtel précédente, avec ses yeux gris. Donc c'est la même, mais à une époque différente, elle était jeune. Et dans la troisième histoire, on rencontre une femme flic qui a les mêmes yeux gris, donc c'est encore elle. Elle a beaucoup vieilli et elle va recueillir un petit garçon de 13 ans dont les parents viennent de mourir dans un incendie. Elle a pour mission de l'emmener dans un endroit pas très sympa pour lui, un orphelinat ou quelque chose comme ça. Et elle décide de l'emmener contre sa hiérarchie. Elle va l'emmener. En fait, elle lui demande comment il s'appelle. Il s'appelle Malcolm, comme le nom de l'homme de la première histoire et de la deuxième histoire. Donc, Alessandro Barrico fait de grands détours, de brillants allers-retours dans le temps, avec les mêmes personnages qui ont vieilli ou rajeuni dans des espaces différents. Chaque histoire s'achève toujours à l'aube, des aubes de toute beauté. Les personnages sont complexes, qui sauvent ou sont sauvés en courant des risques, en changeant leur comportement. Les dialogues que nous avons lus sont sans ponctuation, comme s'il s'agissait d'une narration. Et alors, l'atmosphère qui règne dans ce livre est digne des peintures d'Edouard Aubert. D'ailleurs, la couverture du livre, alors, c'est une photo signée par Richard Tuchman. Et Richard Tuchman, donc, j'ai regardé sur Internet, je ne le connaissais pas. Ça me faisait tellement penser à Edouard Aubert. Et en fait, ce photographe a mis en scène dans ses photos les peintures d'Edouard Aubert, ce qui fait que c'est vraiment ça. Et l'atmosphère qui règne dans ce livre, Trois fois dès l'aube, est vraiment l'atmosphère de qu'on trouve dans les peintures de Aubert. Donc c'est un très joli livre, un petit peu surprenant, mais que je vous conseille. C'est Trois fois dès l'aube d'Alessandro Barrico, paru chez Gallimard.
Je vais vous parler du roman « Giboulée de soleil » de l'auteur Lenka Horniakova-Sivad, publié chez Alma Éditeur en 2016. Lenka Horniakova-Sivad est d'origine tchèque. Elle vit en France depuis plus de 20 ans. Elle est également peintre. Elle a publié 4 livres en République tchèque sur la Provence où elle vit. Et l'un d'eux est un livre de correspondance avec son ami écrivain Anne de la Flotte Medevi. Et ce livre a été publié également en France sous le titre « Entre la Seine et Vltava ». « Giboulée du soleil » est son premier roman écrit directement en français. Elle retrace l'histoire de son pays natal, la Tchécoslovaquie, entre la fin des années 30 jusqu'à la chute du mur de Berlin en 1989. Elle montre sur les destins individuels de 4 femmes comment ces événements historiques ont bouleversé leur vie. 3 de ces femmes ont une chose en commun. Elles sont mères célibataires de mère en fille. Elles se transmettent cette malédiction de génération en génération. Elles ont toutes un caractère très fort, ce qui leur permet de faire face à leur vie très dure et affronter les jugements de leur entourage. Ainsi aussi les changements historiques qui font basculer leur vie. La première, Marie, travaille comme sage-femme chez un gynécologue à Vienne. Lui, il est père de sa fille, mais il est marié. À la fin des années 30, il fuit les nazis parce qu'il est juif. Et Marie rentre avec sa fille en Moravie, une province tchèque d'où elle est originaire. Elles passent toutes les deux la guerre dans un petit village. Elles survivent grâce à la profession de Marie. Nous retrouvons sa fille Magdalena en 1947. Elle a 20 ans et elle se retrouve enceinte. Mais comme le futur père est le fils de son patron, il n'y a pas de question de mariage. Elle met au monde une fille qui s'appelle Libouchet à la fin de février 1948. Au moment où les communistes prennent le pouvoir dans le pays. Les changements politiques marquent profondément la vie de Marie, Magdalena et Libouchet, surtout la collectivisation du monde agricole. Libouchet voit sa vie basculer en août 1968, au moment où l'armée soviétique arrive sauver le pays devant le danger du communisme à visage humain, représenté par Alexander Dubček. Sa fille, Eva, née également du père inconnu, vit la fin du communisme en Europe de l'Est, et avec elle, on voit arriver l'espoir d'un monde meilleur. Je vais vous lire un extrait de la fin du livre, c'est en fait autoportrait de l'auteur, Lenka Horniaková Sivad. Très jeune, j'ai été bouleversée par l'opéra de Jana Hacek, Jenufa, une histoire de la campagne morave écrite par une femme, Gabriela Prajsová. Je voulais écrire sur mon pays, sur son histoire. Je voulais donner la parole aux femmes, porteuses d'espoir, porteuses d'histoire. Tchèque de naissance et pour toujours, je suis née dans une ville de la province de Moravie. Française d'adoption et pour la vie, j'ai découvert la France en 1991 et je m'y suis installée définitivement quelques années plus tard, au terme d'un va-et-vient incessant entre Paris et Prague. En mai 2013, avec une amie française, nous traversions en train la République tchèque d'est en ouest. Lorsque celle-ci m'a demandé de lui parler de mon pays, des gens, de son histoire, m'offrant, en somme, l'occasion de préciser le roman qui doucement mûrissait en moi. Cette histoire a pris corps tandis que je la contais dans la langue de mon pays d'adoption, la langue française. Everest, certes, mais quelle nouvelle liberté! Je lui ai parlé d'une lignée de femmes inscrites dans l'histoire de la Tchécoslovaquie de sa création jusqu'aux années 1980. Chacune d'elles doit assumer son destin. Toutes espèrent vivre loin de la politique et du tumulte de l'histoire. Mais le monde les attrape, les rattrape, et leurs vies en sont ébranlées. Pourtant, si tragique que cela ait pu être, rien n'est irrémédiable, même dans les moments les plus sombres. C'est une histoire de mère, de grand-mère, de fille et de petite fille, d'amour et de non-dit qu'elle voudrait protecteur. Une histoire de racines et d'identité, de famille et de bâtardise fatalement transmise de génération en génération. De ces différences, ces femmes feront une distinction. Je ne pouvais exprimer qu'en français ce qui reste indicible dans ma langue maternelle. Ce roman n'est pas une autobiographie, mais bien évidemment, il parle aussi de moi. Donc je vous recommande vivement ce roman qui est très bouleversant, écrit dans un français extraordinaire. D'ailleurs, il fait partie de sélection pour le prix Renaudot pour printemps 2016. Et Lenka Horniaková Sivad sera au salon du livre à Ries au début du mois d'août. C'était Giboulé de soleil par Lenka Horniaková Sivad, publié chez Alma Éditeur en 2016.
Nous vous avons présenté aujourd'hui Femme de rêve, banane et framboise de Simonetta Greggio.
David a présenté de Antonio Tabucchi Requiem et pour Isabelle aux éditions Gallimard.
Alphonsine a présenté Maléfico de Danotto Carisi chez Calman Levy.
Je vous ai présenté d'Enrico Padiani Trop de plomb aux éditions Télémac en 2015.
Robert a présenté « On inventera bien quelque chose » de Giorgio Siena chez Liana Levy.
Sylvie a présenté « Trois fois des lobes » d'Alexandro Barrico.
Et Blanca a présenté « Giboulée de soleil » de Lenka Horniaková Sivad chez Alma Éditeur. Nous vous présentons maintenant les différents rendez-vous intéressants, les dates à retenir de la médiathèque et du comité de lecture et de tout ce qui gravite autour. Mmh. Donc, la médiathèque présente une exposition qui s'intitule Divina Natura à partir du 24 mai jusqu'au 18 juin.
Voilà, cette exposition fait un petit peu le tour du monde et le tour de grands musées puisqu'elle va présenter des œuvres qui existent réellement, enfin des copies d'œuvres du Quai Branly, du musée du Louvre, qui représentent une grande statue de Jeninké de la civilisation Dogon, donc l'Afrique, l'Égypte avec une stèle égyptienne, enfin énormément de choses, le dieu Tlaloc, le Mésoamérique, et tous ces objets pourront être touchés tactilement et seront accompagnés d'un dispositif audio. Donc les gens pourront en même temps se renseigner sur les œuvres, les enfants pourront jouer avec les œuvres et les adultes pourront les toucher, car la particularité de Divina Natura est de faire des expositions qui peuvent être mises à la portée de notamment de personnes qui ne peuvent pas voir. Donc on vous y invite parce que c'est vraiment très intéressant comme expérience.
Le mardi 14 juin, à la médiathèque de la Brianne, à 18h30, vous aurez des lectures de romans de policiers italiens.
Et le vendredi 17 juin, dans le cadre des journées sur l'archéologie, je vous présenterai un des livres qui est conservé à la médiathèque du milieu du 19e siècle, qui sont des relevés de fouilles, des premières fouilles effectuées par les Français en Mésopotamie sur les sites de Ninive. Mais en fait, ce n'est pas vraiment Ninive que notre archéologue va trouver. Voilà.
Le mardi 21 juin, donc ça sera le prochain comité de lecture, on aura le plaisir de recevoir René Frégny pour son dernier livre, Je me souviens de tous vos rêves, et également pour toute sa production. Donc ça sera le mardi 21 juin à 18h dans les jardins du Centre Jean Giono. Et le vendredi 24 juin, à 20h30, le comité de lecture et la classe de clarinette du conservatoire de Digne et de Manosque présentera un spectacle retraçant la musique d'époque baroque jusqu'au XXe siècle. Donc ça sera le vendredi 24 juin à 20h30 à l'auditorium du conservatoire.
Et la semaine prochaine, pendant toute la semaine prochaine, vous avez la fête du livre Jeunesse, organisée en partenariat donc avec Éclat de Lire et Croque-Livre de Fort-Calquier. N'hésitez pas à aller sur le site, vous tapez sur Google Éclat de Lire et vous allez trouver toutes les activités, tout ce qui est proposé, rencontres avec les auteurs, avec les illustrateurs, ateliers pour grands et petits. Beaucoup d'activités sont gratuites, donc n'hésitez pas à aller sur le site d'Éclat de Lire pour la fête du livre jeunesse qui va donc démarrer du lundi de la semaine prochaine jusqu'au week-end.
Voilà, merci à tous et à bientôt. Et merci à notre technicienne. Au revoir.
Merci.